place. Et on va prendre un temps ce matin pour entendre l'histoire de deux personnes qui vont se faire baptiser, qui vont aller ici dans le baptistère rempli d'eau chaude. J'espère que l'eau est chaude. J'aimerais inviter Guy et José pour venir nous raconter leur histoire de comment Jésus les a appelés à lui, justement. Comment Jésus les a appelés à devenir enfants de Dieu, à devenir ses enfants. Donc, Guy et José, merci.
Bonjour. Je m'appelle José Lacroix, je suis la conjointe de Guy Lafrance depuis presque 16 ans. Nous avons deux fils, Philippe et Justin. Je suis née à Montréal à l'âge de 2 semaines seulement et j'ai été adoptée par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils m'ont choisie, donc Dieu a pris soin de moi dès ma naissance. 4 ans plus tard, ils ont décidé d'adopter une autre fille en Ontario. J'ai eu des parents qui m'ont tout donné ce qu'ils ont pu. Mes parents ont eu tous les deux une enfance catholique, mais pas trop pratiquante. À l'époque, comme c'était la coutume pour les enfants de mon âge, j'ai été baptisée en étant bébé et reçu la confirmation à l'âge ado. J'ai grandi en croyant Jésus, mais aussi que Dieu était un Dieu punisseur et que je devrais toujours être une bonne petite fille. Dans ce temps-là, je parlais à Dieu seulement les dimanches matins. Dans ces années de jeunesse, même si nous allions à la messe régulièrement, personne ne m'encourageait à lire la Bible. Donc, pour moi, la Bible, c'était un livre rempli d'histoires. Et je peux vous dire que l'histoire à l'école, c'était le sujet que j'aimais le moins. Donc, je trouvais ces lectures très difficiles à comprendre. À l'âge de 25 ans, j'ai vécu le décès de mon père et 11 ans plus tard, le divorce. Deux événements qui m'ont forcément rapprochée de Dieu. Après mon divorce, je vivais beaucoup de honte et je ressentais beaucoup de culpabilité face à mes décisions qui apporteraient de gros changements dans la vie de mon jeune garçon. Je brisais sa petite famille. Je ne me sentais pas digne de l'amour de Dieu. L'année d'ensuite, j'ai rencontré Guy, un homme avec Dieu déjà dans son cœur. C'est Guy qui m'a encouragée à commencer à lire la Bible, même si j'avais de la difficulté à comprendre. Donc, j'ai commencé à lire et j'ai devenu curieuse et je posais beaucoup de questions. J'ai continué à travailler sur moi-même avec ma quête personnelle d'être toujours une meilleure personne. Malgré que j'ai toujours cru en Jésus, j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment une relation personnelle avec lui. Pas trop longtemps après notre rencontre, nous étions en camping sauvage et un beau matin, j'étais assise sur une roche sur le bord de l'eau. Je vivais beaucoup d'émotions, de bonnes et de moins bonnes. Je voyais un futur rempli de bonheur et de possibilités, mais une grande prise de conscience sur mon passé était au rendez-vous ce matin-là. J'ai commencé à parler à Dieu et j'ai vidé mon sac, comme on dit. Je lui ai tout dit. Oui, j'avais péché, ceci me séparait de Dieu. J'avais besoin d'être sauvée. Donc, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. J'ai admis que dans les dernières années, je n'avais pas aimé et agi comme un enfant de Dieu. Après quelques minutes, j'ai ressenti une présence autour de moi, mais personne n'était là. Une chaleur et une paix intérieure m'habitent. Je me sentais si bien et libérée. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, ça dit, « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. » Dieu venait de toucher mon cœur à ce moment-là. En regardant en arrière, j'ai compris qu'il m'avait pardonné et qu'il m'aimait comme j'étais. Tranquillement, pas vite, ma foi grandit et ma compréhension aussi. Je remarquais que mon cœur se remplissait de plus en plus d'amour et que je pensais plus aux autres. Je demandais souvent à Dieu d'ouvrir mon cœur et de m'aider de regarder mon prochain avec des yeux de Jésus. J'avais été fidèle à mon Église dans les dernières années. J'étais fidèle à mon Église dans les dernières années, je me questionnais beaucoup. Les années ont passé et un jour, il y a un collègue de travail qui me parlait d'une église, Le Sentier. Viens, me voici. Je remercie Dieu pour toutes ses grâces dans ma vie, de m'avoir envoyé des parents adoptifs qui m'ont voulu et qui ont bien pris soin de moi. Et pour avoir eu la chance d'avoir un enfant moi-même. Quel beau cadeau. Dans Romains 8, versets 15 et 16, ça dit « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, ô mon Père! » L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, j'ai été non seulement adoptée physiquement, mais aussi spirituellement par mon Père Céleste. Je le remercie pour m'avoir ouvert le cœur pour vouloir aller plus loin dans ma foi. Dieu a son plan. Même dans les tragédies et obstacles, nous devons parfois prendre des détours et nous comprenons seulement plus tard les pourquoi. Maintenant, j'entretiens ma relation avec le Seigneur tous les jours. Aujourd'hui, je me fais baptiser pour témoigner que je veux suivre le Seigneur et que je veux le servir avec mes forces et mes capacités que lui va continuer à travailler en moi. Car avec Dieu, tout est possible. Merci.
Bonjour, je m'appelle Guy Lafranche, je demeure à Gatineau depuis 2010 et avant ça à Cornwall, Ontario. Ma conjointe, que vous connaissez maintenant, est Josée. Nous avons deux beaux garçons. Mon père et ma mère proviennent de grosses familles franco-ontariennes. Ils ont eu 10 enfants et je suis le plus jeune. J'ai eu une jeunesse assez ordinaire, à part du décès de mon père quand j'avais 8 ans. Ma mère nous a élevés seuls. La tâche de nous préparer pour la vie tombait sur ses épaules. Aujourd'hui, là que je suis papa, je vois que l'absence de mon père m'a affecté plus que je le pensais. Avoir eu mon père présent aura sûrement changé qui je suis maintenant. Mes parents nous ont toujours encouragés d'aller à l'église et suivre les enseignements catholiques. Ma mère m'a donné la base et les outils qui m'ont préparé pour une vie familiale à venir. Dans ma jeunesse, aller à la messe faisait partie de mes rituels et je me sentais bien dans ce milieu. Tout cela a changé dans mon adolescence. J'ai passé des années rebelles et je me suis éloigné des valeurs apprises et de l'Église. J'ai commencé un style de vie avec peu de restrictions. Comme jeune adulte, je recherchais ma liberté plutôt que les restrictions religieuses. Ma vie est devenue surtout centrée sur moi. Je vivais pour le moment présent et toutes les choses qui pouvaient m'apporter de la satisfaction instantanée. J'avais une attitude d'être capable de tout faire seul, jamais demander de l'aide. Ceci m'isolait de ma famille, amis et Dieu. Je me sentais perdu et seul. J'avais le cœur extrêmement lourd. J'ai réalisé comme un pécheur que j'étais. Je ne voulais plus vivre comme ceci. J'ai demandé pardon à Jésus et à 23 ans, le Seigneur a vu mon état d'âme et m'ouvre la porte en m'acceptant même dans l'état que j'étais. Graduellement, cette étape rebelle a diminué et ma vie accompagnée de Jésus commence. Mais, avec la grâce du Seigneur, ma foi a repris une importance dans mon quotidien. Je me suis éloigné graduellement de mes comportements négatifs. Jésus mettait dans mon cœur une compassion pour mon prochain que je n'avais pas auparavant. Il m'aidait à voir mon prochain avec un nouveau regard. Mais, comme pécheur, j'ai recommencé à vouloir faire les choses à ma manière au lieu de me laisser guider par l'Esprit. Maintenant, je réalise que je n'ai pas eu l'enseignement et le suivi qu'il me fallait pour continuer ma marche dans ma foi. Ma progression spirituelle n'avança pas aussi bien que je l'espérais et Dieu avait d'autres leçons de vie à m'apprendre. Des années ont passé et à 26 ans, je me suis marié. Je vois maintenant qu'on n'a pas assez discuté de nos besoins, attentes et visions. Ma vie de mariée n'a pas commencé du bon pied et les années ont ajouté à nos différences d'idées, valeurs et philosophies. À 29 ans, Justin est né et nos différentes philosophies par rapport à son éducation ont vite apparu. Les années ont passé et nos conflits de couple ont augmenté. Les pensées d'avoir d'autres enfants devenaient plus d'un fardeau qu'une joie. Je ne voulais pas soumettre d'autres enfants dans ce milieu. Au cours des années, ça devenait évident que notre mariage était devenu une vie de deux personnes célibataires avec un enfant. La séparation n'était pas une décision facile pour nous, mais ce qui me tracassait le plus était l'effet à long terme sur Justin. J'ai mijoté ce sujet beaucoup de soirées pour en sortir la conclusion que demeurer en couple allait nuire plus que nous séparer. En février 2003, après 17 ans, mon mariage est terminé. Ce temps de ma vie devenait sombre et ma vision de m'approcher davantage du Seigneur s'éloignait. Je ne m'impliquais pas dans rien qui pouvait me demander de parler de ma situation personnelle. J'avais honte et je ne voulais pas en parler. L'année suivante, encore quand j'étais à mon plus bas, le Seigneur est venu à mon secours. Il savait de quoi j'avais besoin. C'est là que José est entré dans ma vie. J'ai vu que José était ouverte à vouloir cheminer avec moi et on s'encourageait mutuellement. Dieu a utilisé José pour m'encourager dans mon renouvellement spirituel. Jésus m'a aussi fait réaliser que vivre en Église n'est pas juste le service les dimanches. Il faut aussi la fraternité avec d'autres chrétiens qui me manquait dans ma vingtaine. Jean 6, verset 39 dit, « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. » Cette assurance que Jésus est toujours là pour me soutenir me donne un élan pour aller de l'avant. Je vois mon baptême comme une occasion pour démontrer publiquement mon appartenance à Jésus. Merci.
Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à ceux qui sont sur la toile. Bienvenue parmi nous via la technologie. Aujourd'hui, on va voir en quoi l'expression publique de la foi est-elle pertinente au 21e siècle, parce qu'un baptême, c'est une expression publique de la foi. Puis pour répondre à cette question-là, on doit comprendre qu'on vit dans une société où est-ce que le dessin, l'image, l'animation prend de plus en plus de place, en a une place de plus en plus importante. Je ne sais pas si vous avez été voir le film Astérix et le secret de la potion magique, mais moi, je suis né avec Astérix, dans le sens, dans ma chambre à coucher, il y avait des Astérix, j'ai toute la collection. Et je veux dire, on était des amis, puis on se partageait, puis même je relisais Astérix quand j'étais adolescent, puis là, il y a des gags que je ne comprenais pas quand j'étais enfant. Puis je veux dire, avec Ciné Cadeau, tout ça, j'ai vu combien de fois Astérix le Gaulois, puis Astérix et Cléopâtre. Mais si vous comparez Astérix le Gaulois avec le film Le secret de la potion magique, c'est deux mondes. Le monde de l'image s'est amélioré, c'est extraordinaire. En Occident, les symboles, les images, les pictogrammes, les emblèmes, les logos ont une importance capitale. Ils prennent énormément de place. Justement, en parlant de logos, savez-vous, selon Ready Artwork, quel est le logo le plus iconique à travers le monde? Starbucks! Ouais! Un logo, une image, je veux dire, ça, c'est représentatif. Tout le monde qui voit ça, ou presque, sait que c'est Starbucks. Ce logo-là. Le Super Bowl. Et à quoi on associe le Super Bowl? Hein? Ça peut être à la bière, aux ailes de poulet, mais aussi aux commerciaux. Savez-vous que sur le réseau CBS, pour 30 secondes, un commercial, ça peut coûter autour de 5,1 millions de dollars. Puis ça, on n'inclut pas le coût de production du vidéo. C'est juste le diffuser, dire, il va être vu pendant 30 secondes. Puis souvent, ces commerciaux-là, ils sont vus seulement le soir du Super Bowl, on ne les revoit plus par la suite. On va les revoir peut-être sur YouTube, mais ils ne passent plus à la télé. Incroyable! Mais quand on voit ce logo-là, on sait que c'est le Super Bowl. Un, qui est plus proche de nous encore. La voix! Et j'espère que Samantha Neves va gagner. C'est une amie de la famille, puis on y souhaite vraiment qu'elle puisse remporter ça. Mais ce logo-là, quand on le voit, on sait que c'est La Voix. Mais savez-vous quoi, cette année, ça, La Voix a battu un record, la première émission de La Voix. Cette année, on a dépassé le 2 millions d'auditeurs. Sans compter qu'il y a des gens qui font le pèlerinage et se rendent au studio Melz pour être sur place puis vivre le moment sur place. Et chaque entreprise est représentée par un logo, un dessin, quelque chose qui les caractérise, parce qu'on est dans un monde d'images. Un monde qui est relié au symbole, où est-ce que l'identité d'une entité est associée à une image, à un symbole. Et c'est pour ça que le baptême, il prend une place encore plus pertinente aujourd'hui dans cette société d'images. Est plus pertinent, le baptême est plus pertinent que jamais parce que c'est une réalité qui est cruciale, déterminante. Parce que ça nous montre que la foi, parce que ce qu'on veut nous faire croire au travers des médias, c'est que la foi, c'est quelque chose de privé, c'est personnel. Mais il y a une dimension publique, il y a une dimension communautaire, il y a une dimension collective à la foi. Nos œuvres, nos symboles comme la croix, nos rassemblements, notre profession de foi, nos témoignages, nos rites, justement comme la Sainte-Cène, quand on partage le pain et les vins, le baptême, sont tous des démonstrations publiques d'une collectivité. Et ce n'est pas seulement une vie intérieure. Oui, il y a une dimension privée, il y a une dimension personnelle, il y a une relation personnelle à laquelle Dieu nous invite, mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a une manifestation publique de la foi. Et le baptême répond à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que qu'est-ce que le baptême et est-ce qu'il fait partie de notre culture? Est-ce que le baptême, c'est en lien avec notre culture? Puis, en quoi le baptême va nous interpeller? Et c'est pour ça que je vous invite à tourner dans Matthieu 28. Mais avant qu'on lise ce passage-là, eh bien, on va se recueillir pour que nos pensées, nos cœurs soient à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Parce qu'il y a une parole, il y a une pensée qui va venir nous visiter et que Dieu va nous appeler à méditer sur cette pensée cette semaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche et merci Seigneur pour Guy et José qui veulent manifester leur croyance, leur foi en toi publiquement en passant par les eaux du baptême. Ils s'identifient à ta personne Jésus. Merci Seigneur. Merci que tu ne nous as pas appelés seulement à vivre une vie intime avec toi. Oui, ça en fait partie, mais aussi une vie collective, une vie de communauté. Une vie où est-ce que notre foi est appelée à être manifestée publiquement. On te rend grâce pour ton plan merveilleux, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle belle promesse! Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le baptême fait partie de ce que le Seigneur a commandé à ses disciples. Et donc, être un disciple, eh bien, ça amène à comprendre la volonté de Dieu et chaque disciple est appelé à passer par les eaux du baptême. Donc, qu'est-ce que le baptême? Pour bien comprendre ce que c'est. Et je pense qu'un verset qui résume bien l'idée du baptême, c'est Colossiens chapitre 2, l'épître que Paul a écrit une lettre aux Colossiens. Et au chapitre 2, verset 12, il dit, « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, ou pardon, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. » Et Le baptême que le Saint-Esprit opère lors de notre nouvelle naissance et qui nous place en Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit nous rouvre les yeux et on découvre qu'on est pécheur, qu'on est fautif devant Dieu, mais que Jésus-Christ a pris notre condamnation à la croix, il le subit à notre place et on en prend conscience, il nous rouvre les yeux. Et là, on reconnaît que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur personnel. Eh bien, on vit une expérience qu'on appelle être né de nouveau. Et donc, on est baptisé par le Saint-Esprit dans la mort de Christ et on vit une résurrection de vie, une nouveauté de vie s'installe en nous. Et lors de notre mort, il n'y a plus de condamnation pour nous parce qu'on a accepté, reçu que Jésus-Christ est mort à notre place. Il a payé pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos péchés. Et cette réalité spirituelle qui s'est opérée, eh bien, le Seigneur nous appelle à en faire une démonstration publique à un moment donné pour illustrer, pour donner un symbole clair, visible de ce qui s'est opéré dans notre cœur lorsque le Seigneur nous a sauvés. En d'autres mots, il veut qu'on soit plongé, immergé, submergé dans sa mort pour sortir de l'eau comme un symbole que maintenant on vit une vie de résurrection, on vit une nouvelle vie qui a été transmise par lui-même en nous. Et donc, c'est une expression publique d'une réalité intérieure qui s'est passée lorsqu'on a expérimenté cette nouvelle naissance. Mais il y a un autre aspect au niveau du baptême, c'est que le Seigneur nous appelle à s'engager à avoir une bonne conscience devant lui. En fait, le baptême, c'est un peu comme le mariage. Vous savez, au début, il y a une forme d'union, il y a un amour, il y a un partage, il y a des activités communes, mais lors du mariage, on est en train de manifester publiquement notre engagement devant les autres, devant des témoins. Mais l'amour était là auparavant. Mais là, à partir de ce moment-là, on manifeste publiquement devant témoins qu'on est unis pour la vie. Et le baptême, c'est une expression publique devant Dieu, devant les anges et devant les êtres humains, pour témoigner, pour symboliser l'expérience qu'on a vécue et s'engager devant Dieu à marcher avec lui dans une conscience pure. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus d'erreurs, qu'on va être sans péché. Ça veut dire que maintenant, on est conscient qu'il y a une nouvelle vie en nous qui nous éclaire. Et on est conscient de la présence de Dieu. On est conscient. Dieu parle à nos cœurs. Dieu nous visite. Dieu nous instruit par sa parole. Mais est-ce que le baptême, c'est si contre-courant que ça? Parce qu'il y a des éléments dans notre culture. Par exemple, la culture québécoise puis occidentale. Il y a deux éléments, moi, que je considère. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai retenu deux. On a vécu, en tant que Québécois, on a assisté pour la plupart d'entre nous à des baptêmes d'enfants. Moi-même, je suis né dans une famille catholique non pratiquante, mais j'ai été baptisé étant bébé. Maintenant, ce concept-là n'est pas biblique parce qu'un des éléments du baptême, puis ça, on le voit dans 1 Pierre chapitre 3, c'est que un des éléments du baptême, c'est que ça amène un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et quand on est bébé, on ne peut pas prendre cet engagement-là. C'est pour ça qu'on va baptiser des gens qui ont l'âge de raison. Et c'est pour ça qu'on ne baptise pas des enfants. Mais ce qu'on fait ici, puis je vous lance l'invitation aujourd'hui, c'est que si vous êtes parent, puis vous avez des jeunes enfants, puis vous voulez vous consacrer en tant que parent, et dire, « Seigneur, je veux que tu m'équipes, puis je veux que tu me mettes à part en tant que parent pour élever mon enfant ou mes enfants selon ton cœur », eh bien, je vous invite à aller au kiosque, mettre votre nom, votre numéro de téléphone, courriel. On va vous inviter à une rencontre pour vous préparer à cet événement-là, puis on va justement faire cette consécration-là des parents avec vos enfants prochainement. Donc, nous, à l'occasion, on le fait, ça. On ne consacre pas les enfants, on consacre les parents. Et parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit travaille le cœur de quelqu'un, puis il l'amène, il rouvre ses yeux et l'amène à découvrir que Jésus-Christ est son sauveur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il vit cette expérience. Et par la suite, lorsqu'il a vécu cette expérience, cette nouvelle naissance, eh bien, il est appelé à passer par les eaux du baptême. L'autre élément qui se rapproche ou qui a un contact avec notre culture, c'est sortir du placard. C'est une démonstration publique. Sortir du placard, on peut dire sortir, on appelle ça aussi sortir du garde-robe. Quoique sortir du garde-robe, ce n'est pas français parce que garde-robe, c'est féminin. On pourrait dire sortir, mais ça se dit mal. Hein? Sortir de la garde-robe, ça sonne drôle. Hein? Mais ou ce qu'on appelle communément le coming out. Souvent, c'est attribué à toute la question d'orientation sexuelle, mais pas toujours. Écoutez, Céline Dion, à un moment donné, lorsqu'elle était plus jeune, dans les années 80, je me souviens même, j'avais vu cette entrevue-là avec Lise Payette, puis elle s'est mise à pleurer, elle ne voulait pas dévoiler qui était son prince charmant parce qu'elle disait que ça pouvait nuire à sa carrière. Et finalement, à un moment donné, elle est sortie du placard et elle a dit « Je suis en amour avec un homme extraordinaire, c'est mon gérant, René Angélil. » Et par la suite, elle s'est mariée avec lui. Et donc, elle a fait une sortie publique. Elle vivait une relation d'amour, c'était privé, c'était secret, mais à un moment donné, elle a voulu publiquement sortir. Elle a fait une sortie du garde-robe, une sortie du placard. Un autre, et c'est le Washington Post qui nous a révélé ça en 2016, Mark Zuckerberg. Qui est Mark Zuckerberg? Facebook, celui qui est à l'origine de Facebook. Écoutez bien ça. Mark Zuckerberg says he's no longer an atheist. Believes religion is very important. Il a fait une sortie en disant qu'il n'est plus un athée et que la religion est quelque chose d'important. Il a fait une sortie publique et il est audacieux. Parce que lui, il fait partie de ce qu'on appelle le jet set, là, les gens très populaires. Et dans ce monde-là, dans le monde artistique, dans le monde médiatique, eh bien, ce n'est pas très bien vu de dire qu'on est croyant. Et même que ça amène parfois une intimidation, ça amène des gens, même des chrétiens, à être très discrets par rapport à leur foi. Et c'est pour ça que le baptême nous amène à sortir du placard. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites des recherches sur les sorties de placards, sur les coming out, souvent, on va dire que les gens qui ont fait une sortie comme ça se sont posés deux questions la plupart du temps. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que mon discours et mon vécu sont cohérents? Et nous, en tant que chrétiens, la différence, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour être baptisé. Parce que justement, notre témoignage, c'est que Jésus est venu sauver des imparfaits. Mais les questions qu'on doit se poser avant de se faire baptiser, c'est quel est mon lien avec la croix? C'est quoi la place qu'elle a dans ma vie, la croix? Parce que Jésus est mort à la croix pour mes fautes, pour mon arrogance, ma rébellion, mon entêtement contre lui, ma résistance, mes manquements, mon manque de loyauté, mon manque d'amour, mes péchés. Les autres questions, est-ce que je désire m'identifier à Jésus et au message de l'Évangile? Est-ce que Jésus est à l'origine de mon identité? Et c'est pour ça que le baptême ou l'expression publique de notre foi nous interpelle parce qu'elle nous amène à accepter notre identité, à pouvoir communiquer notre foi puis notre nouvelle identité. Et savez-vous quoi? Lorsque vous faites des recherches sur les sorties de placards, ceux qui ont fait une sortie parce qu'ils ont accepté leur identité, comment ils se voyaient du moins, ils ont augmenté leur niveau de bien-être, ils ont diminué leur stress, puis ils ont réduit, dans certains cas, certains symptômes psychiatriques. Et la Bible dit dans Ésaïe 26:3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. » Lorsqu'on accepte notre identité de chrétien et qu'on s'identifie à Jésus-Christ, à la foi chrétienne, eh bien, on est en train d'assumer notre identité. Et c'est pour ça que si on a déjà passé par les eaux du baptême, on a déjà communiqué cette identité-là, eh bien, il y a d'autres moyens aussi où est-ce qu'on peut s'identifier à la foi une fois qu'on est baptisé. On peut saisir une occasion pour exprimer notre foi. Le 11 octobre, par exemple, savez-vous c'est quelle date? Le 11 octobre, c'est la journée du coming out. C'est la journée d'une sortie de placard. Donc, vous pouvez arriver, vous pouvez mettre dans votre agenda, une semaine avant, le 4, vous dites à vos collègues, vous envoyez un courriel, je dis, j'ai une sortie à faire. Je veux sortir du placard. Puis là, ils vont tous là, pendant la pause café, dire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, je suis chrétien, saviez-vous ça? Ça peut être quand vous partagez une tranche de vie avec les gens de votre travail, les gens de votre famille et les gens avec qui vous partagez des loisirs. Ça peut être en posant des questions. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Voyez-vous, lundi, hey, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Ah, oh, j'ai été faire ça, moi, j'ai pelleté tout ça. Puis toi, hey, j'ai assisté à deux baptêmes. Hein? C'était des enfants. Non, c'est des adultes. Et là, ça vous ouvre une porte. Donc, vous pouvez l'intégrer dans des discussions. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans différentes églises, ça nous rouvre la porte à dire, hey, ben garde, moi je suis triste quand il y a un scandale qui se passe dans une église. Mais sais-tu quoi? Les chrétiens sont imparfaits, mais notre Sauveur, lui, est parfait. Puis il sauve parfaitement l'imparfait. En conclusion, l'expression publique de la foi, elle est centrale et essentielle parce qu'elle est l'expression de notre identité. Cacher notre identité, eh bien, c'est cacher l'essence même de notre personne. C'est pour ça que le baptême nous amène à sortir du placard. C'est pertinent parce que le baptême symbolise et exprime une réalité qui est cruciale. C'est une image, une représentation symbolique de ce qu'on est sauvé. On est placé en Jésus-Christ, englouti dans sa mort pour ressortir puis marcher en nouveauté de vie. C'est une illustration, une image de la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je vous invite, après, lorsque la célébration sera terminée, d'aller encourager ceux qui se sont fait baptiser parce qu'ils ont manifesté publiquement. Et ils vont le faire dans quelques instants, leur foi. En terminant, j'ai deux questions rapides à vous poser. Pour toi, à quoi le Dieu de l'univers t'interpelle-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit dans ton cœur, dans ta conscience? Est-ce qu'il dit de t'ouvrir à la foi, comme Mark Zuckerberg? Est-ce qu'il dit t'appelle à te reconsacrer? Puis on va avoir Libération 21, là. Normand va en parler la semaine prochaine. C'est un bon temps pour se remettre dans les Écritures, se reconsacrer à la prière. Est-ce que tu es appelé, le Seigneur t'appelle, dit là, c'est à ton tour de te faire baptiser là, la prochaine fois, là. Inscris-toi. Je lisais récemment qu'il y a une famille d'églises qui ont procédé à 3000 baptêmes de chrétiens d'origine musulmane en 2017. 3000 baptêmes. Est-ce qu'ils t'appellent à naître de nouveau? Et tout ça, c'est en évaluant ton cœur face à la croix. Qu'est-ce que la croix pour toi? Quel est ton rapport avec la croix? Et c'est pour ça que je vous invite pour une dernière fois avec moi à vous recueillir pour qu'on puisse se poser la question, c'est quoi mon rapport à la croix? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, tu appelles peut-être des gens à se reconsacrer. Tu appelles peut-être des gens à se faire baptiser prochainement. Tu appelles peut-être des gens à s'ouvrir à la foi, à simplement prendre conscience, considérer que tu existes ou d'autres que tu veux appeler à naître de nouveau. Tu les amènes à prendre conscience que devant toi, ils sont pécheurs, ils sont manquants, rebelles, mais que tu pardonnes le rebelle, tu pardonnes le pécheur, parce que Jésus-Christ a pris mes fautes, il a pris tes fautes, il a pris les fautes de Guy et José. Il les a payées à la croix, il a subi notre condamnation. Et la bonne nouvelle, c'est justement, j'ai pu à craindre la condamnation éternelle parce que Jésus-Christ l'a payé pour moi. Parce que Dieu s'est fait homme et est mort pour mes fautes, pour mes péchés. Et c'est un rendez-vous que Dieu lance. Si tu n'es pas né de nouveau, aujourd'hui, c'est le temps d'aller devant Dieu et lui demander de te sauver. Merci de continuer à sauver, de continuer à travailler les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci.
Merci, Éric. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter André Chartrand, un des pasteurs ici à l'église Le Sentier, qui va avoir le malin plaisir de caler des gens là, dans l'eau. C'est pas vrai, de les baptiser. Mais quand même, hein, faut savoir que le baptême signifie immersion, complètement immergé sous l'eau. Donc, caler, c'est quand même une expression qui se rapproche du vrai sens du mot baptême. Je te laisse la parole, André.
Merci. Bien, bonjour. José, j'ai bien aimé dans ton témoignage ce que tu disais sur l'adoption. Le fait que toi, tu as été adopté à 2 semaines, très jeune, mais j'ai aimé le fait que tu as fait le lien avec Dieu. Et pour ceux qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ, qui acceptent son sacrifice à la croix, en effet, nous devenons les enfants de Dieu et donc adoptés par Dieu. Et j'ai vraiment aimé ce point que tu as fait avec l'adoption. Fait que merci de l'avoir partagé. Maintenant, allons aux choses sérieuses. Est-ce que, José, tu es prêt?
Oui.
OK, tu es tranquille, là.
Merci pour l'eau chaude.
Après ça, le bain est gratuit pour ceux qui veulent venir. José, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est venu sur cette terre étant complètement 100% homme et aussi 100% Dieu?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés?
Oui.
Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ, son sacrifice à la croix? Notre mot, est-ce que tu as mis ta pleine confiance en lui?
Oui.
Oui, certaine? Mm-hmm. Donc, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu t'en sors pas, Guy. Faut que tu viennes. C'est beau. Approche-toi. Le monde ne mord pas. Guy, j'ai aimé aussi l'aspect de ton témoignage, le fait que c'est un cheminement qui a pris un peu plus de temps. Mais à un moment donné, Dieu a touché ton cœur d'une façon réelle. Et tu as vraiment mis ta confiance en Dieu. C'était vraiment beau de voir comment que ça a changé tout que les aspects de ta vie. Et pour ceux, il y en a plusieurs, ça prend du temps. Et rien de mal avec ça. Dieu est jamais en retard à agir dans notre vie. C'est son temps. Guy, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu... On va tourner pour que tu vois les belles photos. Là, le monde va te voir. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour tes péchés à la croix?
Oui.
Est-ce que tu l'as accepté comme ton maître et sauveur personnel?
Oui.
Bon, bien, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.